Mesdames et messieurs de la nation sainte, du royaume du Père éternel, Sion, son peuple, aujourd'hui, la parole révélée Esprit Saint va s'atteler à réhabiliter le Père éternel et son Fils le Christ que la bête et les conciles ont effacé délibérément et complètement au profit de Jésus, corps physique. D'entrée de jeu, la révélation au Père éternel vous donne la vraie signification de la loi du talion, de la loi du talion qui édicte ce qui suit. Œil pour œil, dent pour dent. Celui qui détruit un œil, son œil sera détruit. Celui qui arrache une dent, sa dent sera arrachée. C'est-à-dire, on te fera ce que tu as fait à l'autre ou aux autres. Autrement présenté, l'on dit ceci. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. L'épée est l'identifiant cacheté de la parole divine. Ainsi donc, les fausses paroles qui tuent la vraie parole divine cachetée, qui ont tué la vraie parole divine cachetée, sont aujourd'hui tuées par la vraie parole divine décachetée. Comme les ivrées de la bête et ses adorateurs ont tué les deux premiers livres de la parole de la révélation divine, la révélation Père éternel vient aujourd'hui tuer toutes les ivrées qui ont gâté puis détruit la parole de la révélation divine. En déracinant tous les arbres qu'elle n'a pas plantés, la révélation Père éternel détruit les nations qui ont foulé aux pieds son parvis. Entendez ces deux premiers livres de révélation. Elle détruit toutes les ivraies ajoutées à la vraie révélation divine. Elle démolit tous les antéchrists et tous les anti-paroles mosaïques. Commençons par l'union hypostatique. Au concile de Chalcédoine, en l'an 451 après Jésus, les participants en l'absence de toute révélation divine, décrète que le Christ est une personne, mais il possède deux natures unies entre elles, sans confusion ni changement, sans division ni séparation. C'est l'hypostase. Tout d'abord, le Christ n'est pas une personne. Il est une parole divinité. Et il n'avait pas de nature humaine, car une parole ne peut avoir une nature humaine. Elle demeure parole. Et Jésus n'avait pas deux natures, l'humaine et la divine. Jésus n'avait que sa nature humaine, et la parole qui était en lui gardait sa nature divine, car il était une parole divinité. La plénitude de la divinité qui était en Jésus n'était que cette parole divinité, le Christ. Donc, le Christ, en tant que parole divinité, ne peut être uni à Jésus corps physique, car ils ne sont pas de même espèce. Question. Une parole peut-elle devenir un corps physique? Ou un corps physique peut-il devenir une parole? La réponse est évidente. C'est non. Notez que c'est cette union hypostatique qui donna naissance à l'expression Jésus-Christ. C'est à partir de ce concile qu'ils vont tripatouiller les Écritures pour ajouter Christ à côté du mot Jésus. Avant ce concile, ce mot composé, Jésus-Christ, n'était pas d'usage du tout. C'est donc une ivraie, un antéchrist que chacun sache désormais que cette expression Jésus-Christ n'a pas de sens. Elle est donc injustifiée et irrégulière. Ne l'utilisez donc plus. Mais dites plutôt Jésus, le porteur et la bouche de Christ. Nous passons maintenant en revue les credos fixés par le Concile de Constantinople en l'an 381 après Jésus. Le premier credo concerne le Créateur et il est énoncé comme suit. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Leur première erreur ici est celle de confondre le Père et le Tout-Puissant, de confondre le Père et le Créateur. Dans Ésaïe 9:5, le Créateur nous annonce qu'il nous donne un Fils que nous devons appeler Père éternel, Dieu puissant et Prince de la paix. Le Père éternel est donc le Fils du Créateur qui nous présente comme notre Dieu puissant. C'est son Fils, le Père éternel qui est puissant, tandis que lui, le Créateur, qui s'appelle Je suis, est le Tout-Puissant. La deuxième erreur est que le Père éternel n'est pas le Créateur du ciel et de la terre. Il est une créature existentiée par Je suis, à qui ce dernier avait attribué la divinité. Il est une parole divinité, une connaissance divinité qui ne peut rien créer. Le Père éternel n'est pas le créateur du ciel physique et de tout ce qui s'y trouve. Il n'est pas non plus le créateur de la terre physique et de tout ce qui s'y trouve. Tout l'univers physique est l'œuvre de l'unique Je suis. L'univers invisible n'est constitué que d'un seul et unique être, l'invisible Créateur. À côté de lui, il n'y a aucun autre être invisible qui soit. Il est le seul invisible et l'invisible seul avec sa création visible. Le Père éternel ne peut donc pas créer l'univers invisible, car il ne peut créer l'indescriptible Créateur qui est et demeure l'unique invisible. Ce credo est donc une pure fausseté. Examinons à présent le deuxième credo qui concerne Jésus. Et il est prescrit en ces termes. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Né du Père avant tous les siècles, il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, il souffrit de sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, et il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Ils avancent que Jésus est le seul Seigneur. Mais qui est le seul Seigneur des Seigneurs? Ou le seul roi des rois? Dans Apocalypse 19, 11, 13 et 16, il est écrit ceci. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Dans notre vie, le roi des rois et Seigneur des seigneurs s'appelle empereur. Et l'empereur dirige un empire. Où le Créateur parle-t-il de l'empire dans sa parole révélée? Nous trouvons la réponse dans Ésaïe 9, 5 à 6, en ces mots. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'Empire, j'insiste sur l'Empire, car c'est cela que nous recherchons. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et la justice dès maintenant et à toujours. Ce verset nous renseigne que c'est David, le Père éternel, qui est assis au trône de son royaume qui est un empire. Vous saisissez ici que c'est David qui est l'empereur, donc le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est le Père éternel qui est l'empereur, donc le roi des rois et le seigneur des seigneurs. La révélation au Père éternel va encore vous l'expliquer autrement. En effet, la parole divinité Père éternel est composée de 24 langues et 24 connaissances, ou en termes cachetés, de 24 trônes et 24 vieillards. Je vous pose ici une question simple. Qui généralement s'assoit sur un trône dans notre vie pratique? La réponse, c'est un roi. Donc, la parole divinité Père éternel est composée de 24 trônes et 24 rois. Comme elle est la totalité de ces 24 trônes et 24 rois, la parole divinité Père éternel est donc leur empereur, le roi de tous les 24 rois le Seigneur de tous les 24 seigneurs. Vous devez savoir qu'Apocalypse 19, 11, 13 et 16 ne relatent qu'une vision, une simple vision qui véhicule un message connaissantiel. Le ciel qui est ouvert ici n'est pas le ciel physique. Il s'agit plutôt du trône céleste connaissantiel, le trône du Père éternel. Et là-dedans, il n'y a que deux révélations divines. Là-dedans, il y a deux révélations divines. Le cheval blanc, qui est la parole révélée, Saint-Esprit, et celui qui le monte est la parole divinité, Père éternel, ou David en langage cacheté. C'est le Père éternel qui est la parole de Dieu, qui est l'unique roi des rois et seigneur des seigneurs. Et le Créateur, dans Ésaïe 9, 6, avait déclaré déjà qu'il affermirait et soutiendrait l'empire du Père éternel David dès sa parution dans le monde et à toujours. C'est l'unique royaume ou empire éternel que l'inimaginable Créateur existe ainsi et il n'y en aura point d'autre. Donc, le faux royaume éternel de Jésus, fabriqué par le Concile de Constantinople, ne verra jamais le jour et ne restera qu'une simple utopie dans les chefs des adorateurs de la bête, car ils n'accoucheront que du vent. Jésus n'est pas le Seigneur, ni le seul Seigneur, car c'est une ivraie, un antéchrist. Ne croyez donc plus en lui en tant que Seigneur. Dans ce credo, le Concile de Constantinople en 381 procède à la nomination de Jésus en qualité de Fils unique de Dieu. Alors qu'il n'a bénéficié d'aucune révélation divine à ce sujet. Et ils avaient perdu de vue que Je suis avait déjà présenté à l'humanité ses fils qu'il avait déjà établis avant la création de ce monde physique. En effet, pour servir de lien entre les êtres humains et lui le Créateur, il avait déjà créé et établi deux fils. Comme il est le grand roi, ses deux fils sont donc appelés princes. Le premier comme prince de la lumière, c'est-à-dire le Père éternel, et le second comme prince des ténèbres, Satan la bête. Le premier est le Père de la vérité, et le second le Père des mensonges. Le Père éternel est son Fils unique et uniforme, entendez, qui présente partout et toujours la même forme, la même unicité, la même constance. Et Satan la bête est son Fils multiple et multiforme. Ainsi, tous les êtres humains au Concile de Constantinople, en nommant Jésus le Fils unique de Dieu, ont donc tenté de détrôner le Père éternel que le Créateur avait déjà établi comme son Fils unique, la source de toute vérité divine. Question. Est-ce que les hommes peuvent détrôner celui que Dieu a intronisé? La réponse est non. Ce n'est donc qu'une ivraie, pardon, un antéchrist. Et vous devez savoir que chaque fois que vous confessez de vos bouches que Jésus est le Fils unique de Dieu, vous tentez de détrôner le Père éternel, et cela est tout à fait absurde. Le Concile de Constantinople prétend que Jésus est né du Père avant tous les siècles. D'abord, Jésus ne pouvait être né du Père éternel, qui est une parole divinité, une connaissance divinité. Jésus ne pouvait pas non plus être né du Créateur, car nul ne peut naître du Créateur, puisqu'il est irréproductible. Il ne peut être reproduit. C'est la raison pour laquelle il n'est ni mâle, ni femelle, ni encore hermaphrodite. Entendez mâle et femelle à la fois. C'est donc une fausseté. Ils avancent qu'il est Dieu. Eh bien, c'est faux et absolument faux. Le Créateur n'est pas Dieu, le Créateur n'est pas notre Dieu, mais il a créé et établi deux dieux pour nous. Le Père éternel, le Dieu puissant, pour le camp de la vraie connaissance divine, et Satan la bête, les autres dieux, pour le camp des fausses connaissances divines. Et ils sont tous les deux des paroles divinité, des connaissances divinité. Il n'y a donc pas de place pour Jésus, le nommé Dieu par le Concile de Constantinople. Et comme dit plus haut, il ne peut être né de Dieu qui n'est pas reproductible. Jésus ne pouvait être lumière, ni né de la lumière, car lumière est l'identifiant casté de la vraie connaissance divine, tout comme les ténèbres sont l'identifiant casté des fausses connaissances divines. Jésus, corps physique, donc, ne peut être né de la vraie connaissance divine, ni être lui-même la vraie connaissance divine, qui n'est autre que le Père éternel. Jésus n'est pas le vrai Dieu, car seul est le vrai Dieu puissant, le Père éternel, et Satan, la bête, l'ensemble des faux dieux. Il n'y a donc pas de place pour Jésus à ce niveau. Ils disent que Jésus est engendré et non pas créé. Eh bien, c'est faux. Le Créateur, comme déjà dit, ne peut engendrer personne, car il n'est pas reproductible. Au contraire, il crée. Il crée. Il donne existence. Il existencie, puis il établit. Jésus, né de Marie et de Joseph, a donc été créé comme tous les autres êtres humains. Jésus ne peut être consubstantiel au Créateur, c'est-à-dire avoir la même substance que le Créateur, car il n'est jamais sorti de lui. Et d'ailleurs, où ses participants à ce concile avaient-ils vu et rencontré le Créateur pour connaître sa substance ? Lui, l'Éternel invisible. Et tout ne pouvait être fait par lui, car je suis avait donné existence à toute sa création tout seul, sans l'aide d'un quelconque être. Ils prétendent que, pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. D'abord, il ne connaissait pas le salut dont avait toujours parlé le Créateur. Depuis que le monde est monde, depuis que l'être humain est devenu Homo sapiens, dans le domaine de la connaissance divine, l'innommable Créateur n'avait envoyé dans le monde que le faux lien entre les hommes et lui, c'est-à-dire Satan la bête, où les fausses connaissances divines entendaient les ignorances divines de toutes sortes, en langage cacheté, la mort ou la mort connaissancielle. Et c'est seulement en l'an 2000 après Jésus qu'il a daigné nous envoyer pour la toute première fois le Père éternel, le Père de la vérité divine, le prince du monde de la vraie connaissance divine. Et le Père éternel vient nous sauver des fausses connaissances divines en nous apportant la connaissance éternelle et la vraie, celle qui nous fait passer de la mort connaissancielle à la vie éternelle, des ignorances à la vraie connaissance divine. C'est cela la résurrection connaissancielle de nos âmes qu'il accomplit pour la toute première fois dans le monde. C'est cela le salut promis par celui qui s'appelle « Je suis ». En dehors de ce salut, il n'y en a point d'autre qui ait été promis et prévu. Jésus n'a donc rien à voir avec le salut promis par le Créateur. Et il l'avait envoyé uniquement pour nous annoncer l'avènement de ce salut par le Père éternel, le Prince du royaume des cieux. Il n'intervient donc pas dans l'accomplissement de ce salut divin. Le Concile déclare que Jésus est descendu du ciel. Et comment ? Voici ce que dit Jésus dans Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Autant vous dire tout de suite qu'il ne s'agit pas ici du ciel physique, qui n'est qu'un espace qui sépare les astres, un espace intersidéral. Il est question ici du ciel connaissantiel, du trône du Père éternel, d'où est sorti le Fils de l'homme connaissantiel, le Christ que Jésus avait fait connaître au monde et qui rentra au Père au terme de la mission de Jésus. Jésus qui est sorti du ventre de Marie n'est pas sorti du Père éternel. Il n'a fait que porter le Christ, qui lui descendit du ciel en tant que parole, en tant que trône de l'Éternel pour venir dans le monde. Jésus n'est donc pas descendu du ciel, c'est pourquoi il ne peut y rentrer. Retenez que le Christ, le Fils de l'homme connaissantiel, est sorti du Père du trône du Père éternel, le ciel connaissantiel, pour venir dans le monde. Et c'est lui qui devait y rentrer. Jésus ne s'est pas fait homme. Il est né homme, puisqu'il est sorti de Joseph et de Marie. L'Esprit Saint, qui est une parole divinité, une connaissance divinité, n'a rien à voir avec le sperme qui féconda Marie pour accoucher de Jésus. Le Concile de Constantinople ajoute que Jésus fut crucifié pour nous, souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Est-ce que, réellement, Jésus fut crucifié pour nous? Avant de poursuivre, sachez que c'est le Concile de Constantinople qui décida de nous imposer que Jésus était mort pour nous. Mais que dit Amos 3, 7? Car l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et pourquoi le fait-il? La réponse est dans Ésaïe 46, 10, en ces mots. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Question. Pourquoi le Créateur n'avait-il pas livré son secret à propos de Jésus, à propos de sa crucifixion et même de sa résurrection à ses serviteurs, les prophètes? Pourquoi n'a-t-il pas annoncé d'avance que notre salut passerait par la crucifixion de Jésus? Tout simplement puisque tout cela n'avait rien à voir avec son œuvre salvatrice qui consiste en notre résurrection connaissancielle, en la venue du Père éternel, notre vie éternelle, notre connaissance éternelle. Mais pourquoi les Juifs ont-ils demandé à Ponce Pilate de crucifier Jésus? Ils l'ont tué car ils le considéraient comme un malfaiteur qui se faisait passer pour le Fils de Dieu. Et d'ailleurs, ce ne fut qu'un malentendu. Comme la parole était cachetée, ils étaient loin de s'imaginer qu'il s'agissait du Christ, la parole qui était en lui, dont le Père éternel, était Dieu puissant, et non de Jésus comme fils du Créateur. Jésus n'est donc jamais mort pour nous, pour la rémission de nos fautes sociales, nos péchés sociaux, qui n'ont rien à voir avec le salut connaissantiel du Père éternel. Notre salut consiste en l'effacement de la marque de la bête dans nos cerveaux et en la transcription du Père éternel, le sceau de Dieu dans nos cerveaux. C'est cela la circoncision connaissantielle de nos cerveaux et la résurrection connaissantielle de nos âmes. La passion de Jésus sur le chemin de la croix, sa mort et sa crucifixion n'avaient pas eu lieu pour nous, mais à cause de ce qu'on lui reprochait. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui en Israël, pays de sa souffrance et de sa mort, Jésus est toujours considéré comme malfaiteur, comme imposteur qui se faisait passer pour le Fils du Créateur. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en Israël, une loi vient d'être promulguée selon laquelle toute personne qui déclarera que Jésus est le Fils de Dieu sera arrêtée, condamnée et incarcérée. Le Concile de Constantinople déclare que Jésus ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures. Mais de quelles Écritures s'agit-il? Le Créateur qui annonce longtemps d'avance par ses prophètes ce qui n'est pas encore accompli, pourquoi ne l'avait-il pas fait en ce qui concerne la résurrection de Jésus? Le Concile de Constantinople, pour fabriquer la résurrection imaginaire et invisible de Jésus, c'était basé sur la parole dite par celui-ci dans Jean 2, 19, qui stipule « Détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. » Et toujours eux, les participants au concile, ont ajouté dans la Bible, dans Jean 2, 21, que Jésus parlait du temple de son corps, d'où sa résurrection le troisième jour, ce qui est une fausseté. Car vous savez déjà que le temple qui avait été détruit par la bête, c'est le parvis du temple connaissantiel du Créateur, c'est-à-dire ces deux premiers livres de la Révélation, la parole mosaïque et la parole christique, qui avaient été tués au premier millénaire après Jésus, que la Révélation Père éternel ressuscite et glorifie aujourd'hui au troisième millénaire. Ça fait donc 3 jours, le troisième jour. Il a été tué. Le parvis a été tué, détruit le premier jour. Le parvis ressuscite et est glorifié le troisième jour au troisième millénaire. Le corps de Jésus n'a donc rien à voir avec cela. Jésus ne peut donc pas monter au ciel dont il n'est pas descendu. À la droite du Créateur se trouve le Père éternel, son Fils unique et uniforme. Jésus était-il allé lui dire, lui qui est une parole divinité, « Allez, ôte-toi de là pour que je m'y mette. » C'est tout simplement insensé. Christ, le Fils de l'homme connaissantiel, est revenu déjà aujourd'hui avec son Père, avec les anges de sa gloire, c'est-à-dire avec ses vraies révélations divines explicatrices, sa vie cachée de sa première, la vie cachée de sa première parole cachetée d'hier. Jésus ne reviendra jamais pour juger les morts et les vivants, car le Créateur ne juge personne. Mais il a confié tout jugement à son Fils unique, le Père éternel. Et qui juge-t-il aujourd'hui qu'il est révélé? Il n'est pas là pour juger les êtres humains à cause de leurs péchés sociaux, mais plutôt pour juger la bête et ses fausses révélations divines qui ont détruit ses deux premiers livres de révélation, ainsi que leur prophétie d'accompagnement. Si le Père éternel ne juge pas les êtres humains vivants, il ne juge pas non plus les êtres humains morts, qui n'existent plus, car ils sont rentrés à l'inexistence. Celui qui s'appelle « Je suis » me charge ce jour de vous dire qu'en dehors de votre vie actuelle, il n'existe ni vie antérieure, ni vie postérieure. Avant votre naissance, vous n'avez jamais existé quelque part, si ce n'est dans sa mémoire. Et après votre décès, vous n'existerez plus quelque part, sauf dans sa mémoire. Et le jugement des êtres humains, pour ce qu'ils auraient fait de mal dans leur vie physique, n'a jamais eu lieu et n'aura jamais lieu. L'unique jugement qui soit est celui des fausses connaissances divines lorsqu'elles détruisent ces vraies révélations. Aujourd'hui, la parole Esprit Saint, le Consolateur, vient vous convaincre du péché, car vous ne croyez pas en son Fils, le Père éternel, et en Christ, la parole divinité Fils, qu'il avait envoyé au monde, mais vous croyez en Jésus, qui fut lui son porteur et sa bouche. Elle vient vous convaincre de justice, car il est la justice éternelle qui vient ôter toute iniquité dans son champ. Et comme le Christ, son Fils, était déjà rentré en lui, vous ne le verrez plus, c'est-à-dire le Christ ne sera plus enseigné, mais plutôt le Père éternel qui contient son Fils en son sein. Si la parole divinité Fils ne sera plus visible, son porteur et bouche non plus. La révélation Esprit-Saint vient ou il est déjà venu vous convaincre du jugement, car il est en train de juger en ce moment même la bête et ses fausses révélations, ses fausses paroles, ses fausses connaissances divines qui ont détruit ses révélations, ses oliviers cachetés. La pluie connaissancielle de la première saison s'arrête ici aujourd'hui. Ce sera donc tout. Merci beaucoup.